Deborah Wellman, la mémoire symphonique.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Elle communique avec les mains pour de multiples raisons, liées à la musique bien sûr, mais aussi à l'apprentissage des langues. Il faut dire que Deborah est débordée de monde. Née à Sao Paulo, élevée dans un kibboutz en Israël, inscrite dans un cours de composition à Buenos Aires, elle est aujourd'hui une des premières femmes à diriger un orchestre national en France. Deborah Wellman dirige l'Orchestre National d'Avignon-Provence, des partitions toujours précieuses dans le sac, pouvant aller d'un célébrissime Mozart à une compositrice du XXe siècle totalement inconnue. C'est le dernier défi qu'elle s'est lancé, faire jouer la symphonie oubliée de Charlotte Seuil en France, un siècle après sa composition. L'occasion de découvrir aussi des points communs entre Charlotte et Deborah, le plus dur avec cette musicienne pleine de fa dièse et de sol majeur étant de suivre le mouvement. Une merveille en sol majeur, ça je sais pas parce que ça c'est le titre de l'émission, mais en tout cas que l'on doit à Mozart sur RFI. Bonjour Deborah Wellman.
Bonjour Yasmin Chouaki.
Présentez-nous cet extrait de Don Giovanni intitulé « Le trio des masques » que vous avez programmé. Qu'est-ce qu'il a de remarquable ?
Il y a des remarquables. D'abord la musique en elle-même, ces trois âmes qui parlent, où en fait Don Giovanni veut conquérir le monde, il veut fêter avec toutes les femmes de la terre, et où on voit vraiment cette espèce d'exubérance de ce qu'il souhaite, et il y a ces moments tellement intimes des trois personnages qui disent en fait protège mon, le ciel, l'innocence de mon cœur, mon cœur est trahi, et donc j'ai pensé que ces moments très spirituels, le moment de cette tumulte tellement humain et tellement presque vulgaire dans ce moment de la fête, nous élevait un petit peu.
La musique pleine de vie et pleine de sacré en même temps.
Exactement.
Alors forcément, ça ne vous étonnera pas dans votre ensemble majeur de chef d'orchestre, il y aura beaucoup de musique et de questions.
Mahi amapa geografit shel hayeldut shelachem?
Quelle est la carte géographique de votre enfance?
Oui, donc je suis née à São Paulo, au Brésil. Après, on a déménagé en Israël quand j'avais 3 ans et demi. J'ai vécu en Israël jusqu'à l'âge de 11 ans ou 12 ans dans un kibboutz. Et après, on a déménagé dans une ville, ce qui n'est pas la même chose en Israël. Et puis, à l'âge de 14 ans et demi, on a déménagé en Argentine. Là, j'ai vécu jusqu'à 23 ans. Et quand j'avais 20 ans, j'ai voyagé à visiter mes amis en Israël. Et au retour, j'ai passé par Paris et Londres. Et mm-hmm. c'est là que je suis tombée amoureuse de Paris. Mm-hmm. Donc, à 23 ans, je suis venue à Paris.
On va y venir, mais tous ces déménagements, comme vous dites, Déborah, se sont faits au gré des amours maternelles.
Exactement. C'est ma mère qui a vraiment tout orchestré.
Oui, en plus, orchestré à double titre.
Totalement, parce qu'elle est chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'elle nous a initiés à la musique très jeune. Mais de tous les quatre enfants, je suis la seule qui a vraiment accroché à cet art.
Alors, vous êtes née en 77 à Sao Paulo. Je ne sais pas si vous avez vraiment des souvenirs parce que vous n'y restez que jusqu'à 3 ans et demi. En revanche, l'expérience du kibbutz à Gaton, je ne sais pas si on dit
Gaton,
comme ça,
oui, bravo.
Vous a marqué. C'est un kibbutz que vous appelez votre terre promise et votre paradis perdu. Et en même temps, vous y racontez une vie très militaire.
Oui, c'est-à-dire très organisé. On se réveillait tôt, on faisait les tâches de ménage et on avait une vie collective avec les groupes. Par exemple, on dormait avec les enfants, on ne dormait pas avec nos parents dans une maison d'enfants destinée donc aux enfants par tranche d'âge. Et ma tranche d'âge, on était 16, 8 garçons et 8 filles. Et je garde un super souvenir de cette époque. On était 3 par chambre. Parce que, comme vous pouvez croire que les enfants, on ne nous donnait pas la liberté. Mais bien sûr, quand les adultes n'étaient pas là, oui. on était un peu les grands de la maison. Oui. C'est que je trouve qu'il nous a donné beaucoup de responsabilités.
Alors, vous allez quitter, je crois, à contre-cœur ce kibbutz. On est obligé de faire des sauts dans oui. le temps, forcément. Votre maman brésilienne, hein ?
Oui.
Décide à un moment donné donc de déménager en Argentine, toujours par amour. Mais il faut dire que dans votre histoire, l'Amérique latine a été une terre d'exil pour la famille.
Oui, moi je voulais l'Europe d'un côté. Et c'est vrai que quand ma mère m'a dit Buenos Aires, dans ma tête, Buenos Aires c'était la petite Paris, n'est-ce pas, de l'Amérique du Sud. Mm-hmm. Et au moment où on est arrivé, j'ai découvert donc ces immeubles magnifiques qui me faisaient penser à Paris, mon imaginaire de l'époque. Et toute la culture européenne qu'on m'a promis à Buenos Aires, que j'ai retrouvée, en effet, beaucoup plus qu'israélien, n'est-ce pas ? Mm-hmm. Donc, j'étais bien contente d'être là, sauf que j'ai pas accroché une chose humaine dans la société. J'ai trouvé les Argentins pas très sérieux, voilà.
Oui.
Par exemple, c'est très banal, mais quand ils disaient qu'ils arrivent à 16h, ils arrivaient à 16h45 et j'ai trouvé ça un peu tard.
Mais ça, c'est un détail par rapport à ce que vous découvrez de ce que l'Amérique latine a joué comme rôle en tant que terre d'exil. Je pense notamment à votre grand-père d'origine polonaise qui a quitté son village au début des années 30.
Oui, pour lui, c'était vraiment une histoire de survie. Il est parti à cause de l'Holocauste. Donc c'est son père à lui qui a commencé à envoyer les enfants parce qu'il savait qu'il allait y avoir un grand désastre. Chaque argent qu'il avait, il envoyait un enfant. Et c'est vrai que c'est à cause de ça qu'on s'est retrouvés au Brésil.
Voilà, et puis ensuite, l'Argentine pour vous. Donc si on résume le résumé, on va dire Sao Paulo, Haïfa, Buenos Aires. C'est-à-dire que pour vous, Déborah Waldman, le laboratoire des premières sensations, il a été immense.
C'est possible, oui.
C'est-à-dire que par exemple, à propos de musique, vous êtes passé de la musique du portugais à la musique de l'hébreu.
Tout à fait. C'est un passage qui s'est fait très naturellement du fait que ma mère, je pense qu'elle ne voulait pas nous parler en portugais. Elle a vraiment coupé avec le Brésil. Elle nous a tout de suite parlé en hébreu, ce qui est étrange parce qu'elle pourrait dire non, mais je voulais garder ma langue maternelle qui était le portugais à elle. Et non, elle voulait vraiment... Donc pour moi, ma langue maternelle aujourd'hui, c'est l'hébreu et non pas le portugais, qui aurait pu être logique.
Mais il en reste quelque chose
de... Ah, mais le portugais, je ne sais pas comment je le parle. Je pense que c'est venu à cause du espagnol que j'ai appris à 15 ans, donc en arrivant en Argentine. Là, tout de suite, le portugais, il a émergé.
Donc, de multiples attachements par rapport à ces multiples terres, avec, par rapport à Israël, vous diriez un attachement à la fois forcément familial et politique ?
Politique, oui, idéologique. Israël, pour moi, c'était à l'époque la terre de construire un monde meilleur. Parce que c'était un peu ça l'idéologie du kibbutz, n'est-ce pas ? Un monde collectif, un monde où tout le monde peut s'entraider pour pouvoir être ensemble. Et vraiment, cet sens de construire un monde meilleur, je me souviens.
Et vous avez vécu donc terriblement l'assassinat de Yitzhak Rabin.
Oui, ça c'est pour moi, c'était un point vraiment de chute de cette idéologie, justement. Seine Sonnen, die gebrochen, seine Sonnen.
Dans vos multiples géographies, Deborah Wallman, forcément de multiples musiques, dont celle-ci, une symphonie.
Oui, de Beethoven. Qui est un grand tube mondial. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère, elle m'a offert cette cassette des Greatest Hits de Beethoven. Le truc le plus banal. Et je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle, sans savoir ce que ça valait vraiment. Mais je savais juste que j'ai adoré cette musique.
C'est quoi alors cette histoire d'adoration? Comment ça se passe? Comment ça se met en place? Je vois que votre corps, il est tout vibrant dès qu'il y a la moindre note qui traverse le studio.
Je pense justement, c'est exactement cette histoire des vibrations. Vous êtes comme un peu ensorcelé par cette musique et vous laissez partir avec elle, là où elle vous amène. Et dès qu'elle finit, vous revenez. C'est un peu une histoire d'être un peu aspiré vers une autre dimension. Enfin, je le vis vraiment comme ça.
Ensorcelé aussi, peut-être, par une présence et une baguette magique, je ne sais pas, celle de votre mère, qui était elle-même chef d'orchestre.
Tout à fait.
Bracha Wallman.
Oui, Bracha, on dit ça.
Pardon.
Et c'est pas grave. Et en fait, c'est vrai que ma mère, elle est très jeune, elle a 20 ans plus que moi. Quand j'avais 8 ans, je me souviens d'elle, à 28 ans, qui faisait encore ses études de direction. Quand on arrivait à Buenos Aires, elle a créé son orchestre et j'ai vraiment suivi son devenir chef. Et je trouve ça très intéressant parce que ça a commencé. Elle était d'abord ma prof au jardin d'enfants. Elle nous faisait chanter avec la guitare. Et puis après, 10 ans après, on se retrouve à Buenos Aires, elle dirige un orchestre. Et donc, je l'ai accompagnée tout simplement.
Et c'était pas pesant ça? Parce qu'en général, l'ombre du géniteur ou de la génitrice comme ça, si... charismatique, oui.
C'est pour ça que quand j'étais à Buenos Aires, donc ma mère Waldman, moi, mon nom à Buenos Aires, pour des raisons purement administratives, c'était mon nom de mon père, Santi Esteban, et de façon que les gens ne savaient pas que j'étais vraiment sa fille. Et elle a créé donc son orchestre, j'ai travaillé pour elle, et puis après, j'ai été travailler dans d'autres orchestres parce que je ne voulais pas avoir les avantages d'être la fille d'eux. Donc j'étais Deborah Waldman Santi Esteban, et j'ai vraiment essayé de percer un chemin à côté. Et puis la plus grande, bien sûr, pas dans ça, c'était partir en Europe.
Mais finalement, est-ce que vous avez l'impression de porter un peu la baguette maternelle?
Ah oui, grâce à elle, je suis chef d'orchestre. Parce que forcément, quand j'étais petite, je me souviens, je ne voulais pas être musicienne. C'est normal. Et ma mère ne m'a jamais vraiment obligée à travailler. Je travaillais par moi-même, mais pas beaucoup, beaucoup comme il fallait, je pense. Et donc, quand on est arrivé à Buenos Aires, pour moi, c'était là le vrai déclic. Là, j'ai commencé à vraiment travailler la musique, vraiment jour et nuit, jour et nuit. C'était un peu tard pour devenir un interprète de très haut niveau, parce que j'avais 15 ans déjà. Par contre, c'est ma mère qui m'a dit, tiens, on va s'inscrire à l'université pour faire la direction d'orchestre. Et moi, je lui ai dit, bon, d'accord, j'avais 17 ans. C'était peut-être OK, mais après, je ferai ce que je veux, vraiment. Souvent, j'ai dit que c'est ma mère qui a vu en moi ses talents et qui l'a laissé exister, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait.
Et donc, Deborah, votre formation va se faire entre Buenos Aires, donc dans ce cours de composition et de direction d'orchestre, et Paris, où vous allez décrocher un poste de chef assistante aux côtés du grand Kurt Masur, dont on entendra la voix tout à l'heure. Mm-hmm. Donc Paris ou la France, dont vous tombez amoureuse sur le plan sonore, peut-être. Merci à notre Laura Pinto en sol majeur qui traduit peut-être très bien ce que vous avez dans la tête, Deborah Wallman. Vous faites avec le pouce super. Qu'est-ce qui s'est passé, ça? Quand la montagne peut avoir des accents symphoniques?
Oui, et aussi les cloches de l'église. Et puis, comment ça sonnerait une cloche dans la tête d'un compositeur ces derniers temps qu'on a entendu à la fin?
Oui, le compositeur, c'est Malheur en l'occurrence.
Voilà, exactement. Et donc, pour moi, c'était d'abord la cloche de l'église à Paris, puis après les cloches que j'ai découvertes dans les montagnes françaises, dans les Alpes. Et tout ça, ça a fait ressurgir en moi donc la musique de Mahler, en l'occurrence la deuxième symphonie, La Résurrection. Et c'est vrai que là, c'était tout bien mélangé.
Donc quand vous vous promenez comme ça dans le monde, c'est comme si vous vous promeniez dans un paysage sonore où la musique surgit.
Absolument. Je pense que chaque, pour le musicien, ou peut-être même pas pour le musicien, comme il y a des madeleines d'odeur, des madeleines de goût, il y a certainement des madeleines de sons, et c'est ce qu'on est en train de faire un petit peu là. Mmh.
Et donc Paris?
Oui.
Plutôt que Londres ou plutôt que les États-Unis, pourquoi?
Oui, pourquoi? Parce qu'à Paris, en fait, l'âge de rentrer au concours était plus jeune. Et je me suis dit, si jamais je rate les concours en Europe, en Amérique du Nord, c'était plus long. Je pense qu'à Paris, c'était 24 ou 25. Et en Amérique du Nord, c'était 28. Et en plus, Europe, parce que pour moi, c'était le berceau de la musique classique et je voulais un petit peu retrouver une authenticité.
Qu'est-ce que vous aviez comme compositeur français en tête?
Oui, je connaissais Ravel et Debussy, mais ce n'était pas une attirance vers la musique française, c'était plutôt pour la quantité de cultures que j'ai découvert, où j'ai vu tellement de musées et autant de volonté de préserver les musées d'une façon tellement sérieuse qui m'a impressionnée. Ben, déjà, les Louvres et en plus... La cité de la musique, ça, dire un gouvernement investi en créant ça, l'histoire des instruments, bah, tout ça, ça m'a vraiment impressionnée. C'était comme un rêve de revenir après.
Alors, il y a quelques noms très importants, évidemment, dans votre construction. Deborah Wallman, on citera Janos Fürst, violoniste et chef d'orchestre hongrois. Michael Levinas, le fils du philosophe, compositeur et pianiste français, grand spécialiste des sonates de Beethoven, je crois. Ils ont été vos grands maîtres. Mais j'aimerais qu'on s'arrête une minute en sol majeur sur celui dont vous avez donc été la chef assistante, le grand chef d'orchestre allemand, monsieur Kurt Masur.
Bonjour tristesse.
Troisième symphonie.
C'est toujours le problème.
Première répétition. So
if you see adage, you think you must be resignation.
No, because it's Martia funèbre.
Of course. What does it mean?
Death.
So. Die Scheu. Ich kann auf der Bühne stehen und ein Orchester dirigieren.
La timidité est restée.
Das Publikum vergessen.
Je ne peux pas être en scène, diriger l'orchestre et oublier le public.
Aber wenn ich durch dasselbe Publikum nach dem Konzert durchgehen soll.
Mais quand après le concert je dois traverser le public, je ne regarde pas les gens. Je n'ai pas le courage de fixer chacun individuellement.
Das ist geblieben. Das
cela est resté.
Will ich auch nicht verändern. Es bleibt, es schirmt mich ab.
Je ne veux pas non plus le changer. Cela me protège du trop-plein d'impressions extérieures et me rend toujours prêt à me questionner intérieurement. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi?
Kurt Masur pour en sol majeur. Lorsqu'il dirigeait l'Orchestre National de France, et cet extrait du doc Kurt Masur, Le Paradis s'il vous plaît. Alors que vous ont appris ces répétitions et son regard d'aigle, Deborah Wallman?
Alors la grande chose qu'il m'a appris, c'est de ne jamais lâcher. Ça, je me souviens, c'est « never give up ». Masur, il avait une grande force devant l'orchestre. Même si, on vous dit, il est des fois timide, mais c'est vrai qu'il est timide ou il devient très doux quand on est à quatre yeux. Mais quand il est devant l'orchestre, pour moi, c'est un grand lion. Quand on dirige un orchestre, des fois, c'est pas qu'on n'est pas civil, c'est que le code est différent. On fait un truc et l'orchestre le fait. Et c'est un peu mystérieux pourquoi et comment aussi ils font exactement ce que j'ai dans la tête ou ce qu'il avait lui dans la tête. Mais voilà, tout ça, il m'a appris parce que j'étais pendant 3 ans et demi à vraiment écouter ses répétitions.
Donc le grand timide se transformait lorsqu'il était baguette en main. Il devenait un grand lion, comme vous dites. Et vous, Déborah, quelle est la métamorphose? Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes devant un orchestre?
Il y a des gens qui me disent qu'ils ne me reconnaissaient pas, en fait. Même Masur même m'a écrit une lettre de recommandation un jour en écrivant « Attention, vous la voyez là, comme ça, comme elle est, mais quand elle est devant l'orchestre, elle le fait vraiment. » Parce que je trouve que quand on est devant l'orchestre, il y a une espèce d'alchimie différente et que ça arrive seulement à ce moment-là où les sons se produisent par ces 40 ou 80 musiciens. Et à ce moment-là, il y a la musique qui vous traverse et vous devenez cette chose-là.
Vous devenez la musique que vous jouez.
Voilà. C'est vraiment, vous êtes un canal, on dit, au travers duquel s'exprime cette musique. C'est plus fort que vous, en fait.
Alors, cette décision de devenir chef d'orchestre, elle n'a pas été comme ça d'une simplicité folle, hein, même si en vous écoutant, on peut se dire, oh, bah, pourquoi pas moi. Mais vous racontez qu'à l'instar d'une certaine route dans la tradition juive, vous dites avoir eu pendant longtemps la sensation d'être le bug dans le système.
Oui, c'est parce que justement dans les concours, en devenant assistant de Kurt Mazur, tout le monde connaissait le maître. Ils avaient fait des masterclass avec lui, etc. Et moi, je suis la seule à avoir été inscrite juste comme ça. Il ne connaissait même pas mon nom, il ne m'a jamais vue. Et j'ai été prise. Après, c'est vrai que je me suis très, très bien préparée, mais je n'avais pas des connexions ou des choses comme ça. Et le bug dans le système m'avait l'air une bonne image pour montrer qu'en fait, je ne suis pas passée par là où tout le monde est passé, mais un peu par ailleurs, mais pour arriver au même endroit.
Mais en quoi c'était vital pour vous de devenir chef d'orchestre ?
Après, c'est devenu vital la musique quand je suis arrivée en Argentine. C'est une sensation étrange que j'ai eue vraiment en suivant Kurt Mazur dans une tournée à Athènes. Il faisait donc Schumann avec l'orchestre national et moi je dirigeais un orchestre des jeunes qui faisait aussi la tournée. C'était très beau. Et en fait, à l'hôtel le soir, j'ai dit mais en fait, ma vie a du sens. C'est comme ça. Quand je suis en train de répandre la musique dans le monde, ma vie a du sens. C'était un peu ça.
On sent peut-être presque une philosophie hein, derrière cet amour de la musique. Par exemple, je sais grâce à la lecture de votre livre « La symphonie oubliée » que dans la tête de Gabriel Fauré, un requiem, c'était censé faire sentir la beauté de l'être cher qui venait de quitter le monde. Pour vous, est-ce que la musique, elle est liée à la musique ou à la vie ?
À l'âme même. C'est l'expression de l'âme, comme on dit. Et pour moi, la musique, c'est tout. Comme vous disiez tout à l'heure, une idée philosophique presque. Donc, c'est un outil de communication. Ça, il ne faut pas oublier que la musique communique. Et on communique avec les musiciens, on communique avec le public et avec l'au-delà, bien sûr. Et donc, c'est avant peut-être tout une communication.
Et alors, vous pensez plus sonate, requiem, symphonie ?
Je pense plutôt symphonie, mais... je pense aussi à juste à une voix toute seule, comme ça, quand quelqu'un se retrouve tout seul, il a envie de chanter, voilà, ça, juste ça. Ou bien une maman qui chante à son fils, ou quelqu'un qui tout simplement amène dans sa tête une mélodie et il s'y retrouve à ce moment.
Alors pour se rapprocher d'une figure féminine de la composition, on va piocher dans notre abécédaire. Donc vous avez fait connaissance maintenant, Déborah. Et on a hésité entre R comme résurrection ou P comme préjugé. Puis finalement, on a tranché.
M comme maestro.
Alors, est-ce que vous connaissez, vous, le féminin de maestro, Déborah ?
Apparemment, c'est maestra.
Alors, on dit la... Ah oui, mais non. On dit une maestro, mais on parle de maestria. Mais en fait, j'ai regardé, d'après le Grand Larousse, oui. Maestro s'applique à un chef d'orchestre ou à un grand compositeur. Donc, vous n'êtes pas un maestro.
Exactement comme la question des religions. Est-ce qu'on dit rabbin ou rabbin ? Normalement, on dit rabbin et dans ma profession, on dit chef et pas chef, parce qu'on privilégie la fonction et pas les genres. Mais c'est vrai que les choses sont en train d'évoluer rapidement et il y a un concours à la Philharmonie de Paris qui s'appelle la Maestra, justement, c'est pour ça que je me permets. Et quand notre orchestre est devenu national à Avignon, Madame la Ministre, elle est venue et dire, je dis bien la Maestra et pas le Maestro. Et moi, ça m'a choquée parce que personne ne me l'a jamais dit.
Voilà. On est encore choqués. Alors, le livre que vous publiez en ce moment chez Robert Laffont avec Pauline Sommelet, intitulé « La symphonie oubliée », c'est un livre qui se lit presque comme un double roman parce que ça met en parallèle votre vie à vous de musicienne et celle de Charlotte Sohi, donc compositrice du 19e, 20e siècle. Et il y a selon vous des points communs entre vous et cette compositrice oubliée ?
Oui, c'est que... L'idée était d'abord de faire un livre sur cette découverte, n'est-ce pas ? C'est déjà extraordinaire d'avoir découvert une œuvre, ne serait-ce que dans l'histoire de la musique, qui a été écrite en 1917 et n'a jamais été jouée. Et puis qu'elle soit de qualité. Et donc, à ce moment-là, un ami m'a donné l'idée de faire les livres. Et avec Pauline, quand on s'est assis avec les petits-fils de la compositrice qui nous a raconté, elle a dit « en fait, je vais faire un portrait croisé ». Et elle a trouvé plein de résonances dans notre vie par exemple, l'histoire donc maternelle, comment Charlotte a été vraiment éduquée et presque portée par la musicienne qui était sa mère, et moi aussi. Et l'histoire des noms, elle a porté aussi les noms de sa mère. Finalement, moi, je porte les noms de ma mère. Et l'histoire aussi d'avoir un mari qui soutient la carrière de sa femme, c'est pas très commun peut-être. Et aussi géographiquement, que mon grand-père, quand il est parti d'Europe, il est parti du Havre. Et c'est à Havre qu'a été créé l'opéra du mari de Charlotte.
Car son mari était lui-même compositeur.
Exactement, Marcel Labbé.
Voilà. Alors sa symphonie à elle, oubliée, est composée au moment de la Grande Guerre, donc en 1914. Justement sur cette période de vie terrible, qu'est-ce qu'on sait de sa vie à Charlotte Sully?
On sait donc que son mari a été appelé au front, qu'elle était enceinte de son quatrième enfant.
Compositrice oui. Et sept enfants.
Et énorme. Son mari était chef d'orchestre aussi. Elle et son mari, ils étaient un couple fusionnel qui vivait pour la musique. Et on sent ça même pendant la guerre, quand ils sont dans les fronts et quand elle les rejoint pour les soigner, justement. Donc, quand elle était enceinte de son quatrième, elle a écrit cette symphonie Grande Guerre, que nous, on a baptisée Grande Guerre parce que c'était pendant ça. Mais elle, personnellement, elle n'a pas donné les titres.
Alors, voilà ce que vous écrivez à quatre mains, donc, dans cette symphonie oubliée, page 13.
Une symphonie, un monde en soi, un Everest bien plus impressionnant que les mélodies, berceuses et autres chants nostalgiques auxquels elle s'est essayée jusqu'à présent. Est-ce vraiment raisonnable de rêver plus grand, de vouloir se mesurer à Beethoven, à Berlioz ou à César Franck sans parler de tous les autres? En est-elle vraiment capable? Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Les vers de Rostand qui l'ont tant frappé quand elle les a entendus le soir de la première de Cyrano au théâtre de la Porte Saint-Martin lui revient en mémoire comme une invitation à ne pas choisir la facilité, à s'attaquer à la face nord en n'écoutant que son cœur. Et pour commencer, la tonalité, ut dièse mineur, la plus funambule qui soit.
Extrait du deuxième mouvement, vous me regardez désespéré, Déborah Waldman, de la symphonie en ut dièse mineur de Charlotte Sully, donc une symphonie inédite que vous avez créée à Besançon en France en 2019. Donc avec quelle sensation alors?
Ah, c'est vrai que ce soir-là, c'était comme une grande mission accomplie. Et c'était un vrai parcours des combattants, de chercher déjà quelqu'un qui serait intéressé à écouter une pièce qui n'a jamais été jouée. Et puis, deuxièmement, de faire les partitions, puisqu'elles n'existaient pas. Donc, avec l'aide du petit-fils de Charlotte Sully, grâce à qui j'ai découvert cette œuvre.
Et s'il n'y avait pas les partitions, sur quoi vous vous êtes basé?
En fait, il n'y avait pas les éditions. Mais lui, il a les manuscrits chez lui, de la main de Charlotte et de la main des copistes de l'époque, puisque la pièce était presque prête à être jouée. Ils ont fait même les parties de chaque musicien. Mais par contre, ça n'a jamais été fait. Et donc, ce qu'on a fait avec le petit-fils, il a saisi tout à l'ordinateur pour que ça soit plus moderne. Et puis moi, j'ai mis toutes les corrections des chefs d'orchestre et on a travaillé avec les premiers violons. On a fait une vraie première édition.
Mais alors, pourquoi c'est devenu une mission à ce point-là? Le mot est fort.
Oui, c'est vrai que c'est des fois des sensations intérieures comme ça. Ce qui s'est passé aussi, que dans ma vie, du coup, dans mon parcours, je voulais avoir un poste, je voulais un peu arriver un peu comme mes collègues, n'est-ce pas? Et je me rends compte qu'il y a des barrières. Et je me suis dit à un moment, parce que cette musique était très belle et que c'était écrit par une femme, je me suis dit, mais peut-être c'est parce que dans mon inconscient, je n'ai pas un bagage féminin, n'est-ce pas? Pourquoi je ne connais pas les noms d'aucune compositrice? Alors que je suis sortie du CNSM de Paris, c'est une grande école internationale. Et c'est là que la mission a commencé à dire, ah, Ok, ben si moi je ne l'ai pas pu faire parce que les générations avant moi n'ont pas eu ce bagage, au moins pour les générations à futur, je vais transmettre ce bagage. Par exemple, ma fille, elle connaît Charlotte Seuil très bien, elle me dit qu'elle est très connue.
Voilà. Mais ce n'est pas parce que c'est une femme.
Non, bien sûr.
Voilà, ce n'est pas la première des qualités, mais justement, parlons de ces qualités. Mm-hmm. Servons-nous de vos oreilles de musicienne, à vous, Deborah oui. Wallman. C'est compliqué, j'ai cru comprendre, d'écrire une musique, par exemple, funéraire, mm-hmm. mais c'est aussi très compliqué d'écrire une symphonie, entre guillemets, sur la guerre. Vous, vous sentez dans cette symphonie la traduction de son mental de cette fameuse année de 1914.
Totalement. Alors, pas l'extrait qu'on vient de faire, parce que justement, comme je disais, elle était enceinte de son quatrième enfant. Et avant d'écrire ce mouvement, elle venait d'accoucher. Mmh. Et là, on sentait vraiment un air assez printanier.
Libération.
Voilà, libération et très réveillée. C'est une chose un peu fraîche. Et ça, je pense que c'est dû tout simplement à l'accouchement. Et c'est très autobiographique, cette symphonie. Les premiers mouvements, quand quelqu'un va les découvrir, vous allez voir, c'est très noir. Et les derniers mouvements finissent finalement très noir aussi, avec une structure pareille, du même motif. Et c'est petit mouvement au milieu, ça fait aussi une espèce de parenthèse pour elle, parce qu'elle venait de voir quand même une grande joie.
Mais qu'est-ce que vous diriez de son langage musical? Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Alors, au départ, je disais, bon, c'est la synthèse entre Wagner et Debussy, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, on entend du Wagner, on entend du Debussy. Mais quand j'ai étudié cette pièce, et imaginez-vous, j'avais aucune référence, aucun enregistrement. Et je me suis dit, il faut que je cherche Charlotte, sa personnalité à elle. Pas parce qu'elle n'était pas dans les livres de musique classique qu'elle n'a pas une personnalité. Et finalement, je trouve que je l'ai trouvée parce qu'elle a beaucoup d'autres pièces, elle a des mélodies. Elle a écrit un tout petit opus, des 30 opus seulement, mais tellement beau. Et j'ai trouvé beaucoup de vocalités chez elle. Elle a écrit un opéra. Et finalement, je me suis servie de ces outils-là pour interpréter la symphonie. Donc, j'ai fait pour moi une synthèse entre un son français, chantant, et que je voulais allemand.
Waouh. Est-ce qu'elle vous a murmuré des conseils pendant
Alors, je
cette
pense
traversée?
Qu'on était très bien connectés. Ce qui était drôle, c'est parce qu'à un moment, elle a écrit un timing sur sa partition. Par exemple, à la mesure 180, il faut qu'il y ait 4 minutes 33. Et donc, moi, j'ai fait une fois avec le chronomètre et je suis arrivée à 4 minutes 32. J'étais trop fière parce que vous voyez, ça veut dire que vous répartissez tous les temps exactement comme il faut pour arriver à ce point-là.
Alors, cette femme compositrice était perçue, j'imagine, par le monde masculin de l'époque d'une certaine manière.
Oui, alors les femmes à l'époque, en tout cas, elles étaient plutôt perçues comme des musiques de salon, musiques de divertissement. Voilà, elles n'avaient pas, entre guillemets, les droits d'écrire des œuvres qui se passeront à la postérité. Mm-hmm. C'est pour ça que très peu d'entre elles se sont attaquées à la symphonie.
Mm-hmm. Sortir cette symphonie de l'oubli, est-ce que vous diriez que c'est aussi un geste féministe de votre part?
Pour moi, c'est avant tout un geste culturel et des patrimoines, d'ouverture. Élargir les codes, c'est pas casser les codes, c'est élargir, parce que si on incorpore, c'est le nom des compositrices, on a finalement un panorama plus complet. Donc j'aime pas les mots féminins parce que ça amène combat, c'est tout simplement
pas féminin, féministe.
Féministe, oui, pardon. Ça amène un truc de résistance, de combat, et pour moi maintenant, si la musique elle a de valeur, ça va s'imposer par elle-même.
C'est drôle parce qu'en vous écoutant, en écoutant le parcours de votre mère qui s'est fait donc au gré de ses amours, on se dit qu'elle aurait eu toute sa place dans un mouvement comme le MLF. En France, le mouvement de libération des femmes, et vous, première femme chef d'orchestre en France, c'est pas un détail quand même. Je me demandais si vous étiez proche, mais la réponse est non, apparemment, du mouvement MeToo.
Non, c'est vrai que je pense que ça a fait du bien, mais je suis pas une militante parce que je crois vraiment, et j'ai toujours cru en mon talent, au talent et aux compétences avant tout.
Et vous pensez que le militantisme, c'est l'ennemi du
non,
de
ça
la
a aidé,
compétence?
Ça a aidé à s'imposer, par exemple. Je suis sûre que ça a quelque chose à voir aussi, ma nomination, qui est arrivée 2 ans après le MeToo. Et sans le MeToo, peut-être ça aurait pris encore 5 ou 6 ou 10 ans à me nommer, alors que c'est quand même une première en France, c'est incroyable.
Thé comme tango ou techno?
tango.
Vous êtes une danseuse de tango plus qu'une bougeuse d'électro.
Non, mais le tango, il a tellement d'histoires, c'est un monde infini.
Ouais. Vous êtes une danseuse ?
Non, j'ai fait quelques cours, mais j'arrive pas.
Miles Davis ou Michael Jackson ?
Michael Jackson.
Ah.
Ça me dit quelque chose. Miles Davis, ça me dit moins. Et disons que c'est des souvenirs d'enfance.
Quand vous dites ça me dit quelque chose, vous êtes sérieuse ?
Non, non, mais je rigole parce que des fois, nous les classiques, on est un peu éloignés de tout ce qui n'est pas classique.
Justement, c'est ça qui nous intéresse.
Oui, donc Michael Jackson, je me souviens quand j'étais petite de ses vidéos. Miles Davis, je ne me souviens pas.
C'est fou ça.
C'est fou.
Parce qu'il n'est pas si loin que ça de la musique classique
c'est
dans
vrai.
Certains albums.
C'est vrai, mais ça dépend aussi de lesquels j'ai écouté.
Blanquette de veau ou tagine au poulet ?
Tagine au poulet.
Cuisine orientale, quoi.
Oui, oui, ça j'aime bien avec les épices, ça me va très bien, oui. Les blanquettes de veau, c'est un peu fade, non ?
Amos Oz ou Alexandre Dumas ?
Amos Oz, sans hésiter. J'ai lu beaucoup de ses livres et c'est tout simplement les derniers là, recueils qu'il a écrits sur la paix, justement. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire.
Et pourtant, les Trois Mousquetaires, c'est un souvenir chez vous ?
Oui, c'est vrai, mais justement, c'est un souvenir d'enfance où je me souviens de la langue française que j'aimais pas.
Ah,
c'est ça qui est drôle.
C'est-à-dire la langue livresque ?
Oui, parce qu'en Israël, on ne traduisait jamais toutes les séries qui passaient à la télé, passaient dans la langue originale. Et donc, il y avait cette série, justement, des Trois Mousquetaires en français. Et moi, je disais, mais je déteste les Français.
Soirée Borges ou soirée karaoké ?
Ah, Borges, ça m'intéresse, oui, oui, totalement. Je le ferais bien. Mais c'est quelqu'un d'intrigant, c'est sûr.
En tout cas, jamais karaoké.
Karaoké, oui, mais en vacances.
En sol majeur à fouiller un petit peu plus avant, en tout cas dans votre oreille à vous, Deborah Wildman, et voilà ce qu'on y a trouvé.
Größeres wolltest auch du. Aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid beuget gewaltiger. Riskiert umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Aufwärts oder hinab. Herrschet in heil'ger Nacht, wo die stumme Natur werdende Tage sind. Herrscht im schiefesten Orkus nicht ein Grades, ein Recht noch auch?
Et encore une création de Laura Pinto qui essaie de traduire ce qu'il y a dans votre oreille très hétéroclite, Deborah Wildman.
Ah oui, elle a tout compris, effectivement. Donc là, est-ce qu'il y a les trois éléments ? Il y a la derbouka, qui pour moi est un instrument oriental israélien de ma part, mais il peut être totalement arabe aussi. Et je me souviens même quand j'ai fait la composition donc à l'Université d'Argentine, j'ai écrit un psaume et j'ai mis de la derbouka dedans. Et c'est très rare quand même dans la musique classique qu'il y ait de la derbouka. Donc c'est pour ça que c'est un instrument qui me parle toujours. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a aussi du samba.
Une percussion brésilienne.
Exactement. Donc c'est une batucada, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que les gens se retrouvent entre eux. Et voilà, et quelqu'un se met à faire un rythme et tous les autres répondent. Et puis ça devient une grande fête. Et ça, je pense qu'il faut que chacun le vive un jour au moins. Et puis, au-dessous de tout ça, c'est mon côté sérieux, un peu ashkénaze. C'est vraiment c'est la poésie allemande, c'est tout ce qui est romantique, c'est tout ce qui est, pour moi, traduit aussi de la musique classique, finalement.
La poésie de Hölderlin qui dit « Très haut visait mon âme, mais l'amour l'a bien tiré vers les tréfonds. Le mal plus fort la courbe, donc j'emprunte de la vie la courbe, et d'où je vins retourne. » Alors justement, tout à l'heure, on écoutait Kurt Masur. Je ne suis pas sûre que vous compreniez tout ce qu'il nous disait en allemand. Mais la petite musique allemande fait partie quand même de vous.
C'est totalement, ça me berce, oui, parce que peut-être à cause des leaders allemands, donc Schubert, Schumann, Mahler notamment. Et je ne sais pas pourquoi aussi, j'ai une attirance vers cette langue. Je l'aime beaucoup. Je sais, ma mère, elle la déteste. Et moi, je l'adore.
En tout cas, votre cœur de musicienne est au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Comment vous définiriez votre identité sonore en tant que chef d'orchestre ?
Alors, je pense que j'essaye d'actualiser les sons. J'ai dit, ok, comment on faisait, mais comment je fais aujourd'hui? C'est ça ma question. Mm-hmm. Donc justement, avec toute cette multiplicité d'origines et des idées, essayer d'en faire un truc authentique.
Mm. Vous avez créé en 2013 un ensemble, Idoménéo, ça veut dire quoi?
Idoménéo, c'est le titre d'un opéra de Mozart. Donc Idoménéo, c'est le héros, c'est le roi Idoménée, avec cette histoire où en fait il doit sacrifier son fils. Bon, c'est grec, n'est-ce pas, la tragédie grecque, mais qui finalement est sauvé par une femme et par l'amour de la femme, qui finalement se dit, bah, je me tiens à le sacrifier moi-même à la place de mon amour que je veux sauver. Et donc les dieux gracient tout le monde. Mmh. Voilà, et je trouve, à un moment de l'humanité, c'était très important, le sacrifice même humain. Et à un moment, ça s'est arrêté. Et le fait de comprendre qu'on n'a pas besoin de tuer pour Dieu, je trouve ça très fort. Et donc cet opéra, je l'aime beaucoup parce que aussi dans les langages de Mozart, c'est un de ses premiers opéras où on commence à voir l'avenir.
Et ce qui n'est pas un détail, c'est que dans cet ensemble, je crois que vos musiciens sont tous polyglottes. La musique, on le sait bien, c'est un passeport et dans votre cas, c'est éclatant. Ça permet d'éviter les grandes questions autour de l'identité elle-même.
Oui, parce que tous les musiciens, justement, je discute beaucoup avec eux quand ils jouent des instruments d'époque ou des instruments modernes. C'est ça qui est intéressant. Ils me disent « je peux faire ce que je veux sur n'importe quel instrument ». C'est-à-dire que l'instrument, finalement, c'est juste un moyen. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on dit avec. Sauf que physiquement, s'ils ont touché un instrument d'époque et puis un instrument moderne, ce n'est pas la même sensation à la fin. Et c'est pour ça que je tenais à avoir des musiciens, comme vous dites, polyglottes ou bilingues, qui parlent plusieurs langues et avec lesquels on peut finalement trouver une langue commune.
Et vous êtes porteuse vous-même de plusieurs langues, de plusieurs mondes. On a commencé votre parcours avec vous à Sao Paulo, on est passé par un kibboutz en Israël, un petit détour par l'Argentine, vous faites votre vie en France et dans les avions aujourd'hui. Comment vous abordez cette question personnellement de l'identité?
Pendant beaucoup d'années, et je pense que c'est toujours encore le cas, c'est que mon identité la plus forte, c'était la musique. Parce que justement, je n'avais pas d'accroche autre que ça. Et c'était mon accroche. Et c'est vrai que même quand je me dis maintenant, je suis française, ça fait 20 ans que je suis en France, etc. Mais je n'aime pas m'accrocher à un truc. J'aime justement être un peu éthérée dans ça.
Papillon.
Et oui, pas parce que ce n'est pas sérieux, c'est pour le fait de ne pas rester quelque part. Voilà, c'est comme on dit beaucoup dans les judaïms, d'être en mouvement, n'est-ce pas? Donc de ne pas s'asseoir pour s'endormir quelque part, mais toujours un peu réveillé. Et je pense que la musique, ça nous permet ça.
Merci Déborah Wallman. Je rappelle que vous publiez donc avec Pauline Sommelet La Symphonie oubliée chez Robert Laffont. Et puis, lorsque vous lâchez la plume, c'est pour reprendre la baguette. Vous allez diriger bientôt l'opéra de Don Giovanni de Mozart. Et vous me le disiez en aparté, Mozart, c'est un enjeu.
Ah oui. Oui, Mozart, c'est quand même un des grands, peut-être les plus grands, en tout cas pour moi. Après, c'est vrai que ça dépend des esthétiques, mais c'est un grand, grand, grand génie, il n'y a rien à dire.
Et prochainement, vous avez aussi sur vos tablettes la 5e symphonie de Mahler. Ce sera en décembre à Montpellier et à Avignon. Est-ce qu'on se quitte avec Shir LaShalom, ça c'est de la pop israélienne, on va dire,
oui. Ou
bien Thomas Louis de Victoria et son O Magnum Mystérieux, ça c'est de la musique sacrée, par un compositeur espagnol de la Renaissance. Qu'est-ce qu'on fait, Déborah?
O Magnum.
Pourquoi?
Parce que Shir LaShalom, c'est déjà pas tout le monde va comprendre. Donc, O Magnum, je pense que c'est plus universel. Et Shir LaShalom, ça touche juste vraiment cette histoire des rabbins et c'est une grande volonté de paix. Mais c'est très local finalement. C'est l'histoire entre Israël et Palestine. Mais Magnum, c'est plus large. C'est moyen. Bah, c'est 14e siècle. Ça peut peut-être nous transporter plus grand nombre.
Un peu de musique sacrée pour se faire du bien en sol majeur. Émission à réécouter en podcast sur votre application Pure Radio ou bien sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter ou encore derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Kofi Kwaoulé. À demain.
Tous les cinémas du monde.